Lizzie présente La vraie vie de Gustave Eiffel, de Christine Kerdelan, lu par Olivier Chauvel. À mon cher papa qui vient de partir, trop vite, à ma chère maman qui va devoir être courageuse. Avertissement. Ce roman biographique raconte la vie de Gustave Eiffel. Les personnages, les dates, les lieux, les faits sont réels. Les dialogues ont été construits essentiellement à partir de sa correspondance, notamment avec ses parents, en ce qui concerne sa vie personnelle. Sa biographie scientifique et industrielle, les 4 volumes qu'il a lui-même rédigés peu de temps avant sa mort, et les éléments concordants des biographies de référence. Je me suis donné pour mission de redonner vie aux personnages en décrivant les événements et les situations de manière romanesque, tout en respectant, au plus près, la vérité historique. Les rares libertés qui ont été prises concernent sa vie sentimentale, et en particulier sa relation avec Adrienne Bourgès. Mais le récit s'appuie sur des balises connues. Leur fiançailles non officielles, leur rupture douloureuse et 33 ans plus tard, le mariage du fils aîné de Gustave avec la nièce d'Adrienne. Si chaque scène du livre n'est pas la vérité, c'est une vérité plausible. Chapitre 1. Le prisonnier de la conciergerie. Juin 1893. Il fait froid dans la cellule, bien que l'été soit proche. Gustave enlève la mince couverture étalée sur son lit et la pose sur ses épaules. En se hissant sur la pointe des pieds, il peut apercevoir à travers les barreaux les Parisiens qui déambulent sur le quai de l'horloge et les péniches qui défilent paresseusement sur la Seine. Rien n'y fait, il frissonne. La pièce est trop petite pour qu'on puisse y marcher, même en tournant en rond. Il retire la couverture, se place face au mur, tend les bras et plie les genoux une fois, deux fois, 20 fois. Ses articulations craquent, ses 60 ans lui pèsent. Où est passé le nageur infatigable, l'escrimeur acharné, le boxeur si dur au mal? Après 5 jours en prison, il n'est plus qu'un vieillard. Il donnerait cher pour pouvoir frapper tout son sou dans un sac de sable, comme il le faisait après sa rupture avec Adrienne. Il passait ses soirées à la salle de boxe. Il savait se battre contre sa souffrance au pied d'un ring. Mais face à l'humiliation et l'injustice, il se sent désarmé. Il s'assoit devant la table bancale sur l'unique chaise et enfouit sa tête dans ses mains. Attendre, c'est tout ce qu'il peut faire. Les visites de son avocat, les lettres de Claire. Sa fille, si fière de lui, que penserait-elle si elle le voyait avachi dans ce réduit de 6 mètres carrés, avec sa barbe de vagabond et son pantalon à élastique? Ce matin, quand il a aperçu son reflet dans la vitre, il n'a même pas de miroir. Trop coupant, trop dangereux, tant de prisonniers se suicident. Il lui a semblé que ses cheveux avaient encore blanchi. L'idée de croupir 2 ans dans cette geôle le rend fou. Mais il n'y restera pas 2 semaines. Son avocat le lui a garanti. Il frappe à la porte pour appeler le gardien, qui arrive sans se presser en claudiquant. Un homme maigre et fatigué, aux yeux furtifs que Gustave n'avait jamais vus jusqu'alors. L'homme semble le narguer derrière le judas. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lâche-t-il vaguement agressif. « Je suis Gustave Eiffel et je sais. Vous savez quoi ? Ce que je voudrais ?» Le gardien ricane. Je sais que vous êtes l'homme de la tour. Ça vous a rapporté, non? Vous n'auriez pas fait les écluses de Panama aussi? L'échange commence mal. Gustave sent la transpiration perler à ses tempes. Ne pas s'embarquer dans une discussion sur l'affaire du canal, aller droit au but. J'aimerais avoir des feuilles de papier et un crayon, s'il vous plaît. Mais vous avez déjà des livres et des affaires de toilette, et le droit de commander des repas à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Un fauteuil Louis XV? Un carrosse? Je veux bien échanger un livre contre 10 feuilles de papier. De toute façon, il n'y a pas assez de place sur cette table.
Et comme il n'y a pas d'étagère.
Nouveau ricanement.
Tiens donc, quand on est habitué à vivre dans des châteaux.
Gustave se retient de répondre. D'un ton égal, il répète. Du papier, une plume et un encrier, c'est possible?
Je vais demander au directeur,
répond le gardien en haussant les épaules. Il referme le judas et s'éloigne en accentuant sa claudication.
Oui, demandez-lui!
Crie Eiffel, soudain effrayé à l'idée qu'il ne revienne pas.
Je suis sûr qu'il va accepter!
Depuis qu'il est incarcéré, le directeur de la conciergerie est la seule personne qui lui ait témoigné du respect. Il a consenti quelques dérogations au régime habituel des prisonniers. Gustave a tout de suite vu que c'était un homme cultivé et un humaniste, gêné de devoir traiter ce nouveau pensionnaire comme un malfrat. Le directeur lui a parlé spontanément du viaduc de Garabit. Il a fait un détour l'été précédent avec sa famille pour apercevoir cette arche géante qui les a impressionnés. Il lui a parlé de la tour Eiffel aussi, où il monte à chaque fois qu'un membre de sa famille, il est de la Lozère, vient lui rendre visite à Paris. Vous savez ce qui leur a fait le plus d'effet, monsieur Eiffel? C'est l'ascenseur Hédoux, entre le deuxième et le troisième étage. Gustave retourne s'asseoir sur son lit. Cet ascenseur aura décidément impressionné du monde. Le prince de Galles, pour commencer. Le prince Albert-Victor de Galles, petit-fils de la reine Victoria, qui a été l'un des premiers à l'utiliser après sa mise en service le 10 juin 1889. Le matériel n'avait pas encore reçu le visa de la commission de contrôle, et quand il a prévenu le prince du contretemps, l'Anglais lui a répondu qu'il voulait y monter tout de même. C'était il y a 4 ans à peine. Comme son univers a changé depuis. Le prince de Galles était venu avec sa femme et ses 5 enfants, les princes Albert, Victor et Georges, et les princesses Maud et Victoria. Gustave avait appris leurs noms par cœur. Assis à côté du prince dans la cabine avec le traducteur de l'autre côté, il avait expliqué dans les moindres détails le fonctionnement de cette machine hydraulique unique au monde. Une invention de l'ingénieur poitevin Léon Hédoux, qui a trouvé ce système pour permettre aux visiteurs de monter les 180 derniers mètres de la tour. La cabine est poussée par un piston hydraulique de 81 mètres de course, tandis que la cabine inférieure fait contrepoids. Vous voyez, nous allons devoir passer de l'une à l'autre à mi-parcours.
« En marchant sur cette passerelle que l'on aperçoit là !»
s'était exclamé l'héritier de la couronne.
« My goodness, nous aurons une vue impressionnante sur Paris !»
Le prince de Galles avait semblé plus émerveillé que ses propres enfants. Voir un Anglais s'extasier devant des prouesses françaises, voilà qui suffisait au bonheur de Gustave. Il l'avait ensuite reçu dans son appartement, le plus haut du monde, au 3e étage de la tour, où Claire et Valentine avaient préparé une collation en son honneur. Ses filles étaient ravies de rencontrer des altesses royales. Il avait ouvert une bouteille de champagne. Discrètement, Valentine avait demandé au prince de dédicacer son éventail. Elle avait demandé la même signature par la suite à tous les visiteurs illustres. À la fin de l'exposition universelle, elle avait offert l'éventail à son père pour son anniversaire. Depuis, il le gardait précieusement dans son bureau. D'autant que le prince était mort depuis, le pauvre garçon, tandis que sa grand-mère Victoria était toujours sur le trône. Après lui, les hôtes de haut rang s'étaient succédés. Les rois de Grèce, de Suède, de Belgique, d'Espagne. Gustave avait été occupé tous les jours, pris dans un tourbillon de fêtes et de luxe. Il s'était souvent dit que ces têtes couronnées prenaient bien soin d'oublier que la tour, comme toute l'exposition universelle d'ailleurs, célébrait le centenaire de la Révolution française, donc la fin des rois. Mais il avait beau jeu de se moquer des idoles qui tombent de leur piédestal. N'avait-il pas cru, lui aussi, que son triomphe serait sans fin? Roulé en boule sur son lit, Gustave rumine sa rancœur. Jamais il n'aurait imaginé le Capitole aussi près de la roche tarpéienne, le campanile de la tour des sous-sols du palais de justice. Comment se peut-il que les Français, après lui avoir rendu tant d'hommages et décerné tant de décorations, après avoir crié au génie industriel et clamé Urbi et Orbi que grâce à lui, la France avait repris à l'Angleterre le rang de nation la plus innovante, l'ait ainsi condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis, au cœur d'un scandale financier dont il n'était pas responsable.